vais commencer la lecture, 1 Corinthiens chapitre 10, les Corinthiens. Toujours, hein, n'oubliez pas, il y a cette thématique-là qu'il avait traité auparavant sur la viande sacrifiée aux idoles, et là, il va vraiment traiter le sujet des idoles. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or ces choses nous sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'entre eux. Selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à la débauche, comme quelques-uns d'entre eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns d'entre eux, qui périrent par les serpents. Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux, qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui doit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Je parle comme à des hommes intelligents. Jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Voyez les Israélites selon la chair, ceux qui mangent les victimes, ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose? Ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons, et non à Dieu. Or je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Mangez de tout ce qui se vend au marché, sans vous enquérir de rien par motif de conscience, car la terre et tout ce qu'elle renferme est au Seigneur. Si un non-croyant vous invite et que vous vouliez aller, mangez de tout ce qu'on vous présentera, sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Mais si quelqu'un vous dit, ceci a été offert en sacrifice, n'en mangez pas à cause de celui qui a donné l'avertissement et à cause de la conscience. Je parle ici non de votre conscience, mais de celle de l'autre. Pourquoi en effet ma liberté serait-elle jugée par une conscience étrangère? Si je mange avec action de grâce, pourquoi serais-je blâmé au sujet d'une chose dont je rends grâce? Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu, de la même manière que moi aussi je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'il soit sauvé. Alors pour ceux qui étaient là, quand on a fait 1 Corinthiens 8, vous retrouvez là que ça se recoupe hein, avec le sujet qu'on avait abordé sur la viande sacrifiée aux idoles. Mais donc là, j'aimerais introduire en précisant que les versets 1 à 6, ils nous sont vraiment donnés comme un avertissement. Et il prend l'exemple des Israélites. Les Israélites, ils avaient vu l'Éternel à l'œuvre. Hein, ils avaient été sous la nuée, ils avaient été guidés le jour par la colonne par la colonne de nuée, la nuit par la colonne de feu. Ils avaient vu les hauts faits de Dieu quand il les avait fait sortir d'Égypte. Et en fait, ils connaissaient l'Éternel, ils avaient la connaissance de ce Dieu, mais malgré tout, cette génération-là, elle a péri dans le désert à cause de leur murmure, on le sait, mais aussi principalement à cause de l'idolâtrie. Et c'est ce qui nous est précisé ici. Et ce qu'il y a, c'est qu'ils ont mélangé ce grand Dieu, ils ont mélangé l'Éternel avec les idoles. Et en fait, leur exemple, il est donné ici pour nous aujourd'hui. C'est ce qui est dit dans le texte. On pourrait dire, oh, ça ne nous concerne pas, nous on n'est pas idolâtres, on a passé ce cap-là depuis longtemps, on a compris que l'Éternel était le seul Dieu. Mais on va voir au moins deux types d'idolâtrie. Mais on va commencer par donner une définition biblique, hein, simplement selon ce que nous dit les textes, parce que pour bien comprendre, il convient de définir ce qu'est l'idolâtrie. Alors, sachons premièrement que Dieu déteste l'idolâtrie. Dieu est, du verbe haïr, l'idolâtrie. À tel point que ça fait partie, ce sont les deux premiers commandements de la loi mosaïque. On peut les prendre, Exode 20, versets 3 et 4. Quand Dieu commence à donner ses 10 commandements, il commence par l'idolâtrie. Est-ce que quelqu'un veut nous lire Exode 20, versets 3 et 4 ?
Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux, plus bas que la terre.
Voilà, tu peux lire aussi le verset 5.
Tu ne te prosterneras point devant elles, tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent.
Voilà, on va s'arrêter là. Mais donc on voit que l'idolâtrie, c'est de se faire des images taillées, de représentations. Ça peut être des statues, ça peut être des totems, ça peut être des masques. Quand on voit en Afrique, il y a beaucoup de masques comme cela. Et surtout, enfin, l'idée, ce n'est pas dans l'absolu de ne pas faire ça. On peut faire des représentations. Aujourd'hui, il y a des tableaux, des œuvres d'art magnifiques. Mais c'est de se prosterner, comme il y a écrit là, verset 5, de se prosterner devant ces représentations, de les servir, de les prier, de les invoquer, voilà, de les adorer. Parce que Dieu est un Dieu jaloux. Alors, pour nous qui sommes de la Nouvelle Alliance, on se dit que, voilà, on a tendance à se dire que Dieu, c'est un Dieu d'amour, un Dieu bon, un Dieu compatissant. Voilà, mais il nous est aussi présenté comme un Dieu jaloux. Dieu est un Dieu jaloux. Mais ce n'est pas une jalousie malsaine. J'aime bien en espagnol, parce que le mot est intéressant en espagnol, ça dit « Dios es » ou il dit « Soy un Dios celoso ».« Celoso ». Je suis un Dieu jaloux, « celoso », ça veut dire « zélé ». C'est-à-dire que Dieu, il nous aime, il est zélé pour nous. Il s'empresse pour nous. Il a cet amour pour nous. Ce n'est pas une jalousie malsaine. Et la Bible nous enseigne que l'Église qu'il est en train de préparer son épouse, hein, pour les noces de l'agneau. Et Dieu, il nous aime comme moi, j'aime ma femme, comme chaque époux devrait aimer son épouse, comme chaque époux devrait aimer son épouse. Et il ne veut pas que nous lui soyons infidèles spirituellement en flirtant avec d'autres dieux, d'autres divinités. Je vous donnais l'exemple de nos épouses ou de nos époux pour mesdames, mais par exemple, j'aime ma femme Johanna, et j'aimerais pas du tout qu'elle aille fricoter, flirter ou avoir des relations avec un autre homme, parce que je l'aime, j'ai cette jalousie, ce zèle pour elle. Et elle pourrait me dire, comme certains le disent, non, moi j'adore Dieu, j'adore l'Éternel, j'adore Jésus-Christ, mais je prie aussi et je vénère ou j'adore d'autres divinités. C'est comme si ma femme, elle me disait, je t'aime, t'es mon mari, t'inquiète pas, c'est vrai que j'ai quelques amants, mais c'est rien, c'est toi mon mari. Alors je vous dis, ça calmerait pas du tout mon zèle pour elle. Et ça ne changerait rien à mon mécontentement. Et voilà, c'est ce genre d'amour que Dieu a pour chacun d'entre vous, ce genre d'amour que Dieu a pour vous. Il vous aime avec passion. Il ne veut pas vous partager spirituellement. Il vous aime, il dit « je t'aime d'un amour éternel ». Et l'idolâtrie, elle nous est précisément décrite dans le texte que l'on a lu en 1 Corinthiens 10, dans les versets 7 et 8, que je relis pour vous. Je reprends mon texte, 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 7 et 8. Donc il dit là, « Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Et qu'est-ce qui s'est passé dans ce divertissement? Eh bien, ils ont commis la débauche. Hein. Ils ont commis l'immoralité sexuelle. C'était une fête, une fiesta, une orgie, tout ce que vous voulez. Et il dit, ne nous livrons point à la débauche, verset 8, comme quelques-uns d'entre eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Alors là, de quoi il parle? Il parle de l'épisode au mont Sinaï, quand Israël est sorti d'Égypte, et puis Moïse est monté au mont Sinaï pour recueillir les tables de la loi. Et puis comme il tardait à descendre, eh bien les Israélites, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, je propose qu'on le lise ensemble, Exode 32, versets 2 à 5. Donc voilà, ce Moïse, il tardait à revenir. On ne savait pas ce qu'il est devenu, fin du verset 1. Alors Aaron, verset 2, leur dit, Exode 32, verset 2, « Ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. » Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un veau en métal fondu, et ils dirent, « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Lorsqu'Aaron dit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria, « Demain, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. » Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Et dans le mot « divertir », on a l'éclaircissement en 1 Corinthiens 10 que l'on a lu là, c'est pour se livrer à la débauche. Et puis la subtilité là, de cette idolâtrie, c'est qu'ils pensent faire une fête à l'Éternel. Demain, nous ferons une fête à l'Éternel. Donc ils désobéissent, ils font une statue là, en or, un veau d'or, et puis ils pensent faire une fête à l'Éternel. Donc dans l'idolâtrie, il y a aussi, hein, c'est immanquablement cette notion de syncrétisme, c'est qu'on mélange éventuellement le vrai Dieu avec des idoles. Donc voilà, c'est la définition de l'idolâtrie, c'est se faire d'autres dieux, d'autres divinités que l'Éternel. Donc faire de ces divinités, de ces déesses, des statues, hein, des représentations, se prosterner devant elles, les adorer et les prier. Et donc Dieu nous exhorte très vivement à fuir l'idolâtrie. Alors on va voir deux types d'idolâtrie, et en fait plus ça va aller et plus ça va s'affiner, et plus ça va éventuellement nous parler. Parce que le premier type d'idolâtrie, c'est l'idolâtrie que j'ai appelée entre guillemets idolâtrie concrète. Voilà, là on est dans le dur, on adore vraiment les idoles, les images, etc. Puis on verra en troisième point, la deuxième type d'idolâtrie, c'est l'idolâtrie on va dire abstraite. Alors la première idolâtrie, on peut dire qu'elle est, c'est un peu grossier quoi, c'est de l'idolâtrie grossière. Et le deuxième type d'idolâtrie, l'idolâtrie abstraite, elle est beaucoup plus subtile. Et je vais donner beaucoup d'exemples de choses que j'ai appris dans les églises, que j'ai appris auprès des frères et sœurs. Donc ça va être assez concret ce soir, on va vraiment mettre les pieds dans le plat. En fait, quand on étudie l'idolâtrie concrète, quand on étudie un peu l'histoire des civilisations, on voit que en fait, depuis la nuit des temps, l'être humain, il a toujours adoré quelque chose. Ici, on est en France, donc il y a un laïcisme qui est là, et on se dit, les gens n'adorent rien, il n'y a pas d'adoration. J'ai dit laïcisme ou laïcité ?
Laïcisme.
Oui, bah, en fait, c'est un lapsus révélateur. La laïcité, au départ, elle était plutôt bonne, mais des fois, ça devient du laïcisme, ça devient une laïcité un peu intégriste, où on veut écarter la foi, la religion, et bon... Mais en fait, dans l'histoire des civilisations, on voit que les hommes ont toujours adoré quelque chose. Et on voit que, généralement, ce sont toujours les mêmes idoles, les mêmes divinités qui ont traversé les siècles, les modes, les empires et les religions. Et à chaque fois, ils ont pris différentes formes ou différents noms. Alors, je ne vais pas avoir le temps de vous parler de toutes les idoles du monde. Mais je voudrais parler de celles qui sont mentionnées là spécifiquement dans la Bible et aussi, parce qu'il faut choisir, celles qui sont les plus significatives pour notre époque aujourd'hui et pour notre culture. Alors, la première idole qui est citée dans la Bible, enfin qui est significative pour notre culture, c'est celle qui s'appelle la Reine du Ciel. La Reine du Ciel, elle a toujours été importante pour beaucoup, beaucoup de peuples et d'empires. Hein, elle a traversé les empires et les civilisations dans la Bible. J'imagine que vous connaissez votre Bible, vous avez entendu parler de Baal, des Baals et des Astartés. Et donc la Reine du Ciel, elle était appelée Astarté par les Phéniciens. Les Égyptiens appelaient la Reine du Ciel Isis. Hein, c'est des noms qui vous disent quelque chose. Isis et Osiris. Donc Isis était appelée la Reine du Ciel par les Égyptiens. Les Babyloniens, un grand empire aussi, appelé Ishtar, c'était la Reine du Ciel des Babyloniens. Ensuite, après l'Empire babylonien, il y a eu les Mèdes et les Perses. Et puis, il y a eu les Grecs. Chez les Grecs, c'était Aphrodite qui était appelée la Reine du Ciel. Il y avait un temple, d'ailleurs, à Corinthe, le temple d'Aphrodite, avant la conquête par les Romains. Et puis, ensuite, il y a eu l'Empire romain qui, elle, a appelé la Reine du Ciel Vénus. Vous voyez, en fait, les adorations demeuraient, même si le nom changeait en fonction des différents empires. Donc, c'était la Reine du Ciel, elle était appelée Vénus, chez les Romains, païens, dans l'Empire romain, païens. Hein, il y a eu une série de 10 empereurs, je crois, de Néron jusqu'à Dioclétien, où là, les chrétiens ont été persécutés, et puis après, il y a eu Constantin. Et Constantin, en 312 ou 313, il s'est converti. Alors après, est-ce que c'était un stratège politique? Est-ce que c'était vraiment une vision qu'il a eue? Libre à vous de traiter et de faire une opinion là-dessus. Mais en tout cas, peu importe ce qui s'est passé, mais sous l'impulsion de Constantin, le christianisme est devenu religion d'État. Donc la Rome païenne est devenue la Rome chrétienne. Et donc auparavant, la Rome païenne persécuter les chrétiens, c'est ce que je vous disais. À partir de la conversion de Constantin, il a fallu, pour préserver l'unité de l'Empire, religion d'État, le christianisme, il a fallu faire rentrer les païens dans l'Église. Alors, ils sont rentrés dans l'Église, mais eux, ils avaient toujours leurs idoles, leurs divinités, leurs déesses, tous ceux qu'ils invoquaient. Et donc, petit à petit, bien, ces idoles, elles ont été intégrées dans l'Église en leur donnant des noms des saints du Nouveau Testament qui depuis petit à petit, et c'est ce que l'on vit encore aujourd'hui, ont été autorisés à être priés, vénérés, adorés, donc Pierre, Jacques, Jean, Marie, etc. Et ça c'est tout simplement incroyable parce que les saints du Nouveau Testament, nos frères et sœurs en Christ du Nouveau Testament, à chaque fois qu'on a voulu les adorer, les prier, ils ont pas voulu, ils ont dit non, ne nous adorez pas, adorez Dieu, adorez l'Éternel, adorez le Seigneur Jésus-Christ. On va pas tout lire parce que le temps presse et j'ai beaucoup de choses à dire comme je vous le dis. Pardonnez-moi si je parle vite, mais je sais que j'ai beaucoup de choses à dire. Au chapitre 14 du livre des Actes des Apôtres, il y a Paul et Barnabas qui à Lystre vont guérir un boiteux. Et puis les habitants de Lystre là, ils vont dire ah, c'est Jupiter et je sais plus qui sont parmi nous, enfin ils les prennent pour des dieux et ils veulent leur faire un sacrifice. Et Barnabas et Paul, ils ont beaucoup de mal à les empêcher de leur offrir un sacrifice. Ils disent non, nous on est des hommes comme vous, mais adorez Dieu, adorez l'Éternel. Dans Actes 10 au verset 26, avec l'épisode de Corneille aussi, Corneille, lorsqu'il a vu Pierre, il s'est prosterné devant Pierre. Donc on a vu que Barnabas et Paul refusaient d'être adorés, d'être pris pour des divinités. Et Corneille aussi, Pierre aussi, quand il voit Corneille se prosterner devant lui, il lui dit, Actes 10, 26, « Lève-toi !» Il refuse qu'il se prosterne devant lui. Il dit « Moi aussi, je suis un homme comme toi. » Mais revenons donc à la Reine des Cieux. Que pense Dieu, donc l'Éternel, Yahvé, qui s'est incarné dans la Nouvelle Alliance en Jésus-Christ, que pense-t-il de l'adoration de la Reine des Cieux? Je vous invite à lire deux chapitres là. Jérémie chapitre 7, versets 18 à 20. Je vais vous les lire.
les enfants.
Vas-y, vas-y.
Comme tu veux.
Vas-y, vas-y, lis bien à haute voix. Donc, les enfants. Chapitre 7, versets 18 à 20.
J'y suis.
Il reproche ça donc aux enfants d'Israël.
Les enfants ramassent du bois, les pères allument le feu et les femmes pétrissent la pâte pour préparer des gâteaux en l'honneur de la reine du ciel et verser les offrandes liquides en l'honneur d'autres dieux, de sorte qu'ils m'irritent. Est-ce moi qu'ils irritent ? Déclaration de l'Éternel. N'est-ce pas eux-mêmes pour leur propre honte ? C'est pourquoi, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel, ma colère et ma fureur vont se déverser contre cet endroit, sur les hommes et sur les bêtes, sur les arbres des champs et sur les fruits de la terre. Elles brûleront sans plus s'éteindre.
Voilà. Donc là, vous avez vu, fin du verset, enfin, au verset 18, pour préparer des libations ou des gâteaux là à la reine du ciel. Et on voit dans les versets suivants que, je veux dire, c'est pas anodin. Vraiment, Dieu est en énorme colère contre le culte et l'adoration de la reine du ciel. Si on prend aussi un autre passage à ce sujet, au chapitre 44, toujours de Jérémie, versets 25 à 27. Jérémie 44, versets 25 à 27. « Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Vous et vos femmes, vous avez déclaré de vos bouches et exécuté de vos mains ce que vous dites. Nous voulons accomplir les vœux que nous avons faits, offrir de l'encens à la reine du ciel et lui faire des libations. Maintenant que vous avez accompli vos vœux, exécutez vos promesses. Écoutez la parole de l'Éternel, vous tous de Juda, qui demeurez au pays d'Égypte. Voici, je le jure par mon grand nom, dit l'Éternel, mon nom ne sera plus invoqué par la bouche d'aucun homme de Juda et dans tout le pays d'Égypte. Aucun ne dira, le Seigneur l'Éternel est vivant. Voici, je veillerai sur eux pour leur faire du mal et non du bien. Et tous les hommes de Juda qui sont dans le pays d'Égypte seront consumés par l'épée et par la famine jusqu'à ce qu'ils soient anéantis. Vous savez, ça, c'est une des choses qui a causé l'exil du peuple d'Israël. Et de Juda. Il semble que Dieu soit vraiment, vraiment, vraiment très en colère contre l'adoration de la reine du ciel. Alors est-ce que vous pensez, je vous pose la question, qu'après la conversion de l'empereur Constantin, l'Église a pu introduire ce culte de la reine du ciel à l'intérieur de l'Église ?
C'est Marie.
Voilà. Pendant plusieurs années, j'ai organisé au sein de l'Alliance d'Église dans laquelle j'étais, j'ai organisé un voyage missionnaire dans toute la France. Donc on allait sur tous les lieux historiques de la Réforme et il y avait un des points forts pour connaître un peu l'histoire spirituelle du pays, de la France, de sa culture. Il y avait la visite du sanctuaire de Lourdes que vous connaissez très bien. Et moi, ce qui me frappait quand j'arrivais, c'était cette immense statue de Marie. Avec cette inscription, il y avait écrit « Marie, reine du ciel
».
Et pour moi, qui était d'arrière-plan catholique, enfin de famille catholique, c'était comme un choc à chaque fois que je voyais ça. Et encore une fois, je veux le dire vraiment sans condescendance, sans mépris auprès des catholiques. Comme je disais la dernière fois, c'est bien qu'on soit d'accord sur nos désaccords, mais... On a vraiment le droit d'avoir nos convictions et de leur prêcher cette vérité. Parce que moi, en tout cas, je veux faire preuve d'humilité. De ce que je lis de la Bible, de ce que je comprends de la Bible, il y a vraiment un très très gros danger. Il y a vraiment une colère de Dieu qui pèse sur ceux qui adorent la reine du ciel. Et il ne faut pas confondre Marie, reine du ciel, avec la vraie Marie biblique. Hein, la Marie biblique, c'était une femme incroyable. Une femme de foi, on peut s'inspirer de sa vie, on peut faire des sermons édifiants sur le modèle de sa personne et sur l'exemple de sa personne, mais en aucun cas, ni Jésus, ni elle-même d'ailleurs, n'a demandé à être priée, à être vénérée, à être adorée comme une déesse. Les dernières paroles qu'elle a rapportées, qui sont rapportées dans la Bible, c'est simplement « faites ce qu'il vous dira, Jésus ». Et Jésus a dit, inspiré par le Saint-Esprit, Paul a dit en 1 Timothée 2, verset 5, donc soufflé par Jésus, il n'y a qu'un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Amen. Parce que ma grand-mère, donc j'avais de très bonnes discussions avec elle, qui était très fervente catholique, et c'est elle qui me titillait des fois, et on avait des échanges tout à fait courtois et cordiaux, Et elle me demandait pourquoi je ne priais pas Marie. Et je lui disais, ben voilà, parce qu'il y a écrit qu'il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est livré lui-même en rançon pour tous. Alors elle me disait, oui, mais parce que Jésus est en colère quand même. Et donc, il est préférable d'apporter nos doléances, nos requêtes à Marie, qui, elle, va les apporter à Jésus. Alors, je lui montrais un peu tout cela dans la Bible. Je lui disais, mais non, Jésus, il ne faut pas le voir comme quelqu'un qui est en colère. Au contraire, il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Prenez sur vous mon joug et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos pour vos âmes. Voilà, bon, on va avancer. On voit une deuxième chose, là, c'est une deuxième idolâtrie, c'est le culte des anges. Alors là, on voit qu'on peut adorer les anges dans Colossiens 2, 18, je vous le lis. Colossiens 2, 18, il est écrit « Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges... » Voilà, donc on voit qu'on peut avoir voué un culte aux anges. Et c'est vrai qu'avant de me tourner vers le Seigneur, j'ai fait beaucoup d'expériences spirituelles, j'étais dans le Nouvel Âge aussi, et donc il y avait des bouquins où on apprenait à connaître notre ange gardien, et donc à se mettre en contact avec notre ange gardien ou avec des archanges. Mais donc voilà, on voit qu'on peut vouer un culte aux anges. Donc aucun homme sous une apparence d'humilité et par un culte des anges ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à des visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Alors sur ce sujet-là, du culte des anges, je voudrais vraiment relier ces points avec les versets 19, 20 et 21 du texte de 1 Corinthiens 10. Hein, quand Paul dit que on peut être en communion avec des démons quand on pratique l'idolâtrie. Et donc là, je voudrais vous partager une expérience que j'ai apprise moi-même avec des chrétiens d'une église que nous avait donné la grâce d'implanter à Rochefort. Donc les anges, adorer, prier les anges, c'est une idolâtrie. La Bible nous dit de ne pas adorer les anges, ni de prier les anges, puisque 2 Corinthiens 11, 14 nous dit que Satan lui-même peut prendre l'apparence d'ange de lumière. Satan se déguise en ange de lumière, et il n'est pas étonnant, nous dit le texte en 2 Corinthiens 11, 14, là, il n'est pas étonnant que ses ministres en fassent de même. Donc Satan et les démons se déguisent en anges. Dans le livre de l'Apocalypse, au verset 22, versets 8 et 9, Jean reçoit des révélations d'un ange et il est tenté de se prosterner et d'adorer l'ange. Ça, c'est un vrai ange de Dieu, c'est pas un démon déguisé. Mais même cet ange-là de Dieu, il dit à Pierre, je vous cite, Apocalypse 22, 9, « Garde-toi de le faire, garde-toi de te prosterner devant moi. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes et de ceux qui garderont les paroles de ce livre. » Et il lui dit « Adore Dieu ». Adore l'Éternel. De quelle expérience je vous parlais de ce couple de chrétiens, un jeune couple de jeunes chrétiens à Rochefort. Ils sont arrivés dans notre église à Rochefort et ils nous ont dit, voilà, en fait, bon, ben, nous, on vient de se convertir dans le sud de la France. Ils avaient été dans une église dans le sud de la France. Et en fait, on était un couple de voyants professionnels. C'était notre métier. On était voyants. Ah, je dis, alors ça m'intéresse que vous me racontiez tout. Donc, je veux tout savoir. Je vous dis, dans mon ministère et l'expérience qu'on peut acquérir pendant les années de ministère, on apprend tout ça des autres. Hein, c'est vous qui nous donnez l'expérience. Donc, ils m'ont raconté leur parcours dans la voyance. Donc en fait, ils m'ont expliqué qu'ils ont ouvert leur troisième œil. Il y a un œil là, qui n'est pas physique, qui est spirituel. J'ai fait quelques recherches sur Internet. Et j'ai vu, il y a des vidéos, comment ouvrir son troisième œil. Et ça commence en disant, ça peut faire peur. Et vous devez reconnaître et accepter que ce n'est pas une expérience physique, mais que c'est une expérience spirituelle. Vous allez être mis en contact avec des anges, avec des esprits, de la lumière, etc. Il y a de ces vidéos qui circulent sur Internet. En fait, c'est exactement ce qu'eux, ils ont fait et ils ont expérimenté. Donc, ils ont fait ce processus d'ouvrir leur troisième œil, leur œil spirituel, pour voir l'invisible, pour voir les réalités spirituelles, et pour pouvoir être mis en contact avec ce que eux ils croyaient être des anges, des esprits de la lumière, qui leur donnaient, les esprits, les anges, leur donnaient des révélations pour pouvoir aider les gens qui venaient les consulter. Mais peu à peu, ces esprits de la lumière, auxquels ils étaient connectés, devenaient de plus en plus exigeants avec eux. C'est-à-dire qu'ils disaient, ok, nous on te donne des informations, mais c'était donnant-donnant. Et ils sentaient que de plus en plus, il y avait une emprise de ces anges, de ces esprits sur eux. Et ils ont fini par avoir tellement peur, je vais vous raconter pourquoi, qu'ils ont fini par se rapprocher de chrétiens, parce qu'ils ont commencé à flairer, à voir, enfin, à la fin, ils ont vu que c'était clairement démoniaque et satanique, ils ont eu très très peur, et en fait, le réflexe a été de se rapprocher de chrétiens. Donc, moi, je vous lis juste un témoignage, là, vécu. Hein. Donc, ils se sont rapprochés de chrétiens, alors les chrétiens leur ont montré qu'il ne fallait pas faire ça, que c'était un péché, qu'il fallait qu'ils se repentent, qu'ils demandent pardon à Dieu, qu'ils se tournent vers le Seigneur. Ils se sont donc repentis, se sont tournés vers le Christ, vers Jésus, pour les libérer de l'emprise de ces esprits. Mais même après leur conversion, il y a eu un temps où ils ont eu du mal à se débarrasser de ces esprits, de ces anges, qui, comme je vous le disais, se sont clairement révélés comme étant des démons, et ils m'ont expliqué pourquoi. Donc en tant que voyant, en tant que médium, ils pratiquaient ce qu'ils appelaient le passage d'âme. Passage d'âme. Donc ça consistait à aider les âmes des défunts, les âmes des personnes décédées qui n'étaient pas encore passées de ce monde-là à l'autre monde. Donc eux, ils les aidaient à faire ce passage d'âme pour aller dans l'au-delà. Donc leur vocation, c'était voilà, de les aider. Et c'est comme ça qu'ils sont rentrés en contact avec une petite fille toute mignonne, préadolescente, qui venait soi-disant de mourir. Et en échange, que eux, ils invoquent, ils prient, enfin, ils ont toutes sortes de choses pour l'aider à passer dans l'autre monde, dans l'au-delà. Elle leur donnait des informations sur les personnes qui venaient les consulter. Et donc, lorsqu'ils se sont convertis à Jésus, ils ont continué quand même à voir cette petite fille. Alors, je ne peux pas vous raconter pourquoi, je ne suis pas spécialiste de la chose. Moi, je me serais dit, ben non, quand tu t'es converti, c'est radical, c'est terminé. Il y a quand même eu un processus, et ils ont quand la petite fille venait, ils leur ont dit, non, c'est terminé. On appartient au Seigneur, on est converti à Jésus, il n'y aura plus rien entre toi et nous. Et à ce moment-là, ils ont vu le visage de la petite fille qui s'est transformé en un démon, mais terrifiant, quoi. Hideux, terrible. Et c'est pour ça que ce que je vous dis là, ça me dépasse complètement. Hein. Mais ce que je sais, c'est que c'est ce couple de voyants-là, ils se sont retrouvés dans notre église, et voilà ce qu'ils m'ont raconté. C'est tout ce que je peux vous dire. Alors, on ne nie pas, bien sûr, que les démons existent. Peut-être que cette jeune fille, c'était un démon comme en acte 16. Il y avait la femme qui était possédée d'un esprit de Python et qui, en devinant, procurait un grand gain à ses maîtres. Et c'est Paul et Silas qui l'ont délivré, qui ont chassé ce démon. Et voilà, donc ce que je vous dis, c'est quelque chose qui me dépasse complètement. Je sais qu'une chose, c'est ce couple de voyants repentis s'est retrouvé un jour dans notre église et que c'est leur grande expérience dans la voyance qui les a amenés à comprendre que, en fait, sans le savoir, ils consultaient des démons déguisés en anges de lumière ou en personnes décédées. Et donc, ça introduit directement le troisième type d'idolâtrie, c'est le culte et l'invocation des morts. Vous connaissez tous l'histoire de Saül, hein, oui. Qui est allé voir un médium pour invoquer un mort. Il a demandé à faire remonter Samuel. Et je vous lis la sentence de Dieu contre Saül pour avoir consulté un nécromancien et invoqué un mort, enfin une nécromancienne. 1 Chronique 10:13. 1 Chronique chapitre 10 verset 13. Saül est mort. Voilà tout ça pour vous montrer en fait la colère, hein, de Dieu quand on se livre à ces choses-là. C'est très très grave. Saül est mort parce qu'il a été infidèle au Seigneur. Il n'a pas gardé la parole du Seigneur et a même consulté un médium pour se faire guider. Et il n'a pas interrogé le Seigneur. L'Éternel le fit mourir et remit le royaume à David, fils d'Isaïe. L'invocation des morts, elle peut prendre différentes formes. Aujourd'hui, hein, certains, au lieu d'invoquer le Seigneur Jésus, comme nous l'avons vu, ils peuvent invoquer des saints canonisés. On invoque Saint Paul, Saint Pierre. Moi, je me rappelle ma fameuse grand-mère catholique, comme on n'arrivait pas à avoir d'enfants avec Johanna, elle me disait, « Ah, ben tiens, pour la fécondité, tu devrais prier Alors je sais que chez les Grecs, je crois que la déesse de la fécondité, elle s'appelait... Comment ? Redis ?
Réa.
Réa, voilà. Réa. Et je me demande si c'est les Romains, je crois que c'était Cybèle. Et alors c'est marrant parce que ma grand-mère catholique me disait, ah ben pour la fécondité, il faut que tu invoques Sainte-Anne. Sainte-Anne, c'était la mère de Marie, donc qui a donné naissance à Marie. Et donc tu invoques Sainte-Anne ou tu invoques Saint-Gabriel. Vous voyez, il y avait ce transfert des divinités en invoquant les saints morts, en fait, du Nouveau Testament. Et donc aujourd'hui, ben, certains invoquent des morts. Et cette pratique, elle est totalement interdite et étrangère à la Bible, à la parole de Dieu. Dans d'autres cultures, le culte des morts s'appelle le culte des ancêtres. Hein, on invoque les défunts des familles pour demander aide, assistance, protection. Mais la Bible nous enseigne à invoquer le Dieu vivant.
C'était les pénates des Romains.
C'est exactement. Plutôt que le Dieu vivant plutôt que les morts. Je termine avec ce premier type d'idolâtrie. Il y a aussi le culte de la création. Hein, je vous dis, c'est très prégnant dans notre société aujourd'hui. On invoque et on adore la création plutôt que le créateur. Ça rejoint Romains 1 quand il dit ils sont donc inexcusables parce qu'ils ont connu Dieu, mais se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, ils ont adoré, ils se sont fait des images, des reptiles, des quadrupèdes, etc. Et ils ont adoré la créature. Ou la création, hein, puisqu'il y a écrit que dans ce passage que Dieu se révèle au travers de sa création pour les hommes. Et au lieu d'invoquer le Créateur, ils ont invoqué la création, ils se sont prosternés devant la création. Et c'est ainsi que des gens invoquent la lune, invoquent le soleil. Et c'est très, très à la mode en ce moment, parce que c'est là, on voue un culte à la terre-mère. Voilà. C'est pas Dieu le créateur, c'est la terre mère, ils appellent ça Gaïa. Ça, c'est très à la mode en ce moment. Alors toutes ces choses que l'on vient de voir, et on aurait pu en voir encore, mais vous avez vu l'heure qu'il est, constituent le sens premier de l'idolâtrie, hein, l'idolâtrie concrète. Hein, se faire des statues, se prosterner devant des statues, invoquer les anges, etc., etc. Faire attention parce que des anges, des démons peuvent se cacher derrière tout cela. C'est d'ailleurs la Wicca, hein, la sorcellerie. Il y a une forme de sorcellerie, c'est le Wicca, W-I-2-C-A. En fait, il s'adapte à toutes les cultures de tous les pays. Et derrière les idoles des pays, ça peut être des statues, des saints, etc. Eh bien, ils invoquent les divinités de tous les pays. Et derrière, ce sont des démons, clairement. C'est la Wicca, ça. Et donc j'avais eu le témoignage d'un ancien sataniste converti à New York, aux États-Unis, et il allait dans une boutique où et il disait que ben voilà, derrière les statues de Saint Machin, de Marie, etc., eh bien, on invoquait et c'était des démons en fait qui nous répondaient. Même si ils trompent les gens, hein, les gens pensent vraiment adorer un saint ou
faire quelque chose de bien, quoi.
Il croit faire quelque chose de bien. Et c'est ça le rôle du diable. Il ne veut pas nous faire peur, mais il veut simplement nous détourner de Jésus seul. Et ces idoles-là, ces démons, ils sont capables de choses spectaculaires. C'est ce qui est écrit dans 2 Thessaloniciens. La puissance de l'impie à la fin des temps, elle se manifestera par des prodiges, des miracles. Ça peut être des guérisons aussi et tout ça. Donc il faut faire très attention, avoir beaucoup de discernement. Et donc, il faut être... Vraiment, je vous invite à prendre ce verset, 1 Thessaloniciens 1, 9. Il est important de comprendre que la vraie conversion à Dieu, le vrai salut, passe par l'abandon des idoles. On ne peut pas adorer Dieu, l'Éternel, Jésus-Christ, et adorer, prier en même temps, vénérer d'autres divinités, d'autres dieux, d'autres saints... ou la reine des cieux, pas du tout. Et vraiment, souligner ce verset, si vous ne l'aviez jamais vu dans ce sens-là, 1 Thessaloniciens 1, 9, l'apôtre Paul dit aux Thessaloniciens, « Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu, comment ? En abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. » Et je peux vous dire, et vous le savez, que ce soit en Inde, en Thaïlande, au Pakistan, en Chine, en Arabie Saoudite, partout, en Amérique latine, chez les chamans, n'importe où, lorsque les habitants de ces pays deviennent chrétiens, Ils fuient leurs idoles. Ils abandonnent leurs idoles pour se tourner vers Jésus-Christ seul, même s'ils doivent être rejetés par leur famille, par leurs co-religionnaires, même s'ils doivent être persécutés, eh bien, ils abandonnent tout. Je vous invite maintenant à voir le... Là, ça va se resserrer sur nous, là, petit à petit. L'idolâtrie abstraite, subtile. Et là, il y en a trois principales qui sont mentionnées dans la Bible. Là, bien sûr, on ne se prosterne pas devant des statues, on n'invoque pas des anges, etc. Mais ce sont ces choses qui prennent la place de Dieu dans nos vies. Donc on dit que les trois choses qui gouvernent le monde, c'est quoi? C'est le pouvoir, le sexe et l'argent. Eh bien, c'est exactement ça dont nous parle la Bible. La débauche, l'argent et le pouvoir. Le pouvoir et l'orgueil. Alors la débauche... On voit au verset 7 et 8 de 1 Corinthiens 10 que l'idolâtrie des Israélites les a conduits à la débauche. Et donc la débauche, c'est un des fruits de l'idolâtrie. La débauche, c'est une idolâtrie. Et la débauche, aussi malheureusement, dans le peuple de Dieu, c'est un fléau. J'avais eu l'occasion de donner un jour à une conférence de jeunes un message sur un texte dans Josué où le peuple de Dieu se livrait à la débauche. Et à cause de ça, bien, le peuple de Dieu avait été vraiment affaibli. Le peuple de Dieu est affaibli, pénalisé à cause de la débauche en son sein. Et j'avais vraiment frappé fort sur la débauche. Et voilà, donc toujours avec amour. Et voilà, comprendre, comme ça a été dit il n'y a pas très longtemps, que c'est aussi un esclavage. Il y avait plusieurs jeunes qui étaient venus me voir après pour confesser qu'ils étaient dans la débauche, dans l'impudicité, etc. Et c'est décrit comme une idolâtrie. C'est un esclavage savamment orchestré aujourd'hui par le prince de ce monde, au travers des écrans, au travers d'Internet. Moi, je me rappelle quand je suis né en 1972. Quand j'étais au collège, il y avait un gars dans mon collège, il avait une cassette VHS de porno. Et c'était la star du collège, quoi. Parce qu'il avait une cassette VHS. Il y avait un truc de porno qui circulait dans le collège. Mais aujourd'hui, c'est partout. Tout le monde y a accès. Nous, il y avait un gars dans le collège. Aujourd'hui, c'est partout. En un clic sur Internet, c'est savamment orchestré par le malin parce que c'est une idolâtrie qui nous détourne de Dieu. Et c'est un problème spirituel. Un grave problème spirituel. Je ne vais pas continuer sur la débauche, il est moins 10, donc je n'ai pas le temps, mais bon, vous aurez compris que c'est une idolâtrie et que voilà, Dieu nous demande de ne pas faire ça. La deuxième chose, c'est l'amour de l'argent. C'est l'une des idolâtries les plus importantes, car Jésus a dit « Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon ». Et donc, Colossiens 3:5 nous dit que l'amour de l'argent, la cupidité, est une idolâtrie. Donc là, il ne pouvait pas être plus clair. L'amour de l'argent, c'est une idolâtrie. Alors c'est difficile pour nous de trouver l'équilibre, parce que d'un côté, la Bible nous encourage à travailler. Il y a cette culture du travail dans la parole de Dieu. On a vu la dernière fois que Paul y travaillait à Corinthe. Je n'ai pas eu le temps d'en parler, mais Paul travaillait à Éphèse. Paul fait son adieu aux Éphésiens en Actes au chapitre 20, il dit « Rappelez-vous que j'ai été nuit et jour à l'œuvre ». Que ses mains ont été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge de personne. Il dira aussi aux Thessaloniciens, qu'il y avait des Thessaloniciens qui ne voulaient plus travailler parce qu'ils disaient « Le Seigneur revient demain, donc il n'y a plus besoin de travailler ». Et là aussi, Paul, il dit qu'il a voulu être à charge à personne et il a travaillé avec ses mains pour servir d'exemple. Donc l'apôtre Paul, c'était aussi un modèle de travail, d'abnégation. Et il y a cette culture du travail qui caractérise aussi le protestantisme dans l'histoire, à tel point que je discutais avec un frère à La Rochelle, parce qu'il y a une très grosse histoire protestante à La Rochelle. On dit que dans les livres d'histoire, il y a écrit que sur 26 000 habitants à l'époque, il y en a 22 000 qui sont morts en tant que protestants sans renier leur foi. Donc vraiment un protestantisme spirituel. Mais il y en a qui disent que c'était aussi un protestantisme professionnel, financier, parce qu'il y avait voilà, cette culture de l'argent, ce commerce avec les Anglais, etc. Et donc, il y a cette culture du travail qui est biblique et qu'on retrouve dans le protestantisme. Et donc, c'est difficile pour nous de trouver le juste milieu entre à quel moment on travaille bien comme il faut pour soutenir notre famille, nourrir nos enfants, notre femme, etc. Soutenir la mission, aider l'Église persécutée, soutenir nos pasteurs, comme on l'a vu, parce que c'est la responsabilité de l'Église. Et puis le moment où on bascule dans trop d'argent, la quête insatiable, effrénée l'amour de l'argent. Alors, il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent hein, dans les églises, il y a des gens très riches, il peut aussi y avoir des gens très pauvres. Dans, je crois que c'est dans les Proverbes que je disais il n'y a pas longtemps, il y a écrit « Dieu fait le riche comme le pauvre ». Et on voit ça dans les églises, hein. L'église c'est un microcosme de la société. Et il y a des chrétiens qui gagnent beaucoup d'argent, et ils utilisent cet argent pour soutenir l'œuvre de Dieu, les pasteurs, les missionnaires, l'église persécutée, etc. Et que Dieu les bénisse, hein. Que Dieu bénisse la générosité et la libéralité. Mais Dieu nous met... Il y a des chrétiens qui ne gagnent pas beaucoup, mais qui sont aussi généreux. On pense à cette vieille dame, cette vieille veuve là, qui avait donné de son nécessaire, et non pas de son superflu. Mais Dieu nous met en garde contre l'amour de l'argent, hein, de vouloir gagner toujours plus, et travailler égoïstement, parce que c'est toujours pour nous. Et c'est en dépit de notre vie avec le Seigneur, et de notre service pour le Seigneur. Alors moi je dis souvent, il y a un bon baromètre, surtout quand on est parent, pour se demander si on ne travaille pas trop, c'est est-ce qu'on a le temps, en tant que parent, d'enseigner la Bible à nos enfants tous les jours? Ou bien est-ce que finalement on passe notre temps à travailler? Après le système est compliqué aussi, hein, parce qu'il faut travailler, parce qu'on a des charges à payer, il y a les impôts, etc. Il faut payer les loyers, il faut payer les crédits, c'est tout système qui veut ça. Donc les papas, mamans doivent travailler. Et puis ça devient compliqué, le soir on rentre, on est fatigué, et les enfants ils rentrent de l'école, et le système est difficile, il y a une lutte pour l'enseignement spirituel de nos enfants. Mais je pense que c'est un bon baromètre de nos priorités, de savoir est-ce qu'on a le temps, je dirais moi tous les jours, d'enseigner nos enfants, de faire un culte familial. J'ai pas le temps de parler du culte familial, un jour j'ai entendu un message là-dessus, et depuis je me suis mis à faire un culte familial avec ma fille, et c'est telle bénédiction. Et je voudrais vous dire, en tant que parent, si vous pensez que l'école du dimanche c'est suffisant pour l'enseignement de vos enfants, vous vous trompez grandement. Et je rends grâce à Dieu, j'ai mal au cœur quand je vois dans toutes les églises, hein, quand je vois les enseignants d'école du dimanche qui partent enseigner les enfants sans qu'on prie pour eux en public. Tout le monde l'a compris, pour les enseignants et pour l'école et pour les enfants, parce que c'est énorme le travail qui est fait avec les enfants. Et il faut prier pour ça, il faut soutenir ça. Donc là, même je plaide devant les anciens pour qu'on ne laisse pas partir les enfants sans prier pour eux. Il faut prier, la prière est importante, même en public. Et voilà, le Seigneur nous dit, ne croyez pas que c'est une digression, hein, mais après je suis passionné par l'éducation des enfants, mais Deutéronome 6:6, hein, Dieu dit, ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur, tu les inculqueras à tes enfants, tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Éphésiens 6:4 nous dit, vous, pères, vos parents, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. C'est aux parents que revient la prérogative d'instruire spirituellement leurs enfants. Et s'ils ne peuvent pas le faire, c'est qu'il y a un problème et qu'il faut y réfléchir. Et comme je vous disais, les enseignants de l'école du dimanche font un travail formidable, qui sont une grâce et une opportunité, mais c'est d'abord la responsabilité des parents. Ma femme, elle a enseigné l'école du dimanche quasiment tous les dimanches depuis qu'on sert le Seigneur. Et souvent, je dois dire, elle a été surprise par le manque. Je suis désolé, hein, mais je ne parle pas de cette église, puisqu'elle n'a jamais enseigné ici, mais elle a été souvent surprise par le manque de connaissances bibliques des enfants dans les églises. Il y a un missionnaire américain qui s'appelle Paul Washer, que vous devez connaître. Écoutez bien ce qu'il dit. Alors ça peut paraître un petit peu là dur envers les écoles du dimanche, c'est pour ça que j'ai rendu hommage aux écoles du dimanche, mais il veut vraiment un peu taper fort. Il dit, vos enfants iront à l'école publique et seront formés pendant environ 15 000 heures à la pensée, en tout, hein, à la pensée séculière impie. Puis ils iront à l'école du dimanche où ils coloriront une image de l'arche de Noé, et vous pensez que cela va résister aux mensonges qu'on leur raconte. Alors je le redis encore une fois, l'école du dimanche, c'est pas juste colorier une arche de Noé, mais il fait ça pour mettre en parallèle vraiment la gravité de la situation. Donc veillez à ce que votre travail ne vous conduise pas à décharger et à déléguer l'instruction et l'éducation spirituelle de vos enfants à d'autres. Je termine maintenant avec le pouvoir et l'orgueil. Oh là là, 56. Je vais vous donner un témoignage personnel. Okay. Je vais vous donner un témoignage personnel sur le pouvoir et l'orgueil. Donc vous savez que je suis pasteur depuis plusieurs années. C'est pour ça qu'il y avait écrit dans le texte aussi, attention, que celui qui est debout prenne garde de tomber. Donc, je termine avec la troisième principale forme d'idolâtrie subtile, hein, donc c'est le pouvoir, l'orgueil. Je veux être fort, je veux être reconnu, je veux être admiré, je veux être vu. Je veux que les gens reconnaissent mes talents, mon savoir-faire, mon pouvoir. Je veux être le premier, je veux qu'on voit mes capacités. Et donc il y a un verset qui dit, vous l'avez, c'est Philippiens 3, 19, leur fin sera la perdition. Et, Philippiens 3, 19. Il dit même qu'en parlant de cela, ils ont, je crois qu'il y a écrit avant, j'ai pas noté les versets, mais ils se conduisent en ennemis de la croix. Il y a écrit ça. En tout cas, il y a écrit leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur propre ventre. Idolâtrie là, hein, un autre Dieu, leur propre ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Alors le ventre, il ne s'agit pas là des intestins, de l'estomac, il s'agit en fait de... C'est nous le centre, c'est moi le centre, c'est moi qui veux être vu, entendu, glorifié, etc. Et donc je vous donne un exemple de quelque chose qui m'est malheureusement arrivé. Je le dis un peu avec honte, mais disons c'est un peu pathétique. Mais je pense que ça peut être utile, c'est pour ça que je le dis. Quand j'étais adolescent, de 9 ans à 18 ans, de 17 ans, j'étais judoka. J'étais un judoka à un niveau national. J'avais des très très bons résultats. J'ai dû arrêter prématurément à cause de blessures. Et il y a quelques années, en fait, j'ai appris qu'ils avaient fait il y avait un gros circuit vétéran en judo. J'ai toujours été sportif, hein, même pendant que j'étais pasteur, je faisais du triathlon. J'aimais bien ça. Et puis, quand j'ai appris qu'il y avait un circuit vétéran en judo, je me suis remis au judo. Et j'ai fait un premier tournoi à Nantes, c'est un tournoi national, et en fait, j'ai gagné. Et donc, il y a des tournois qui sont classés par label, donc il y avait les labels A, et puis les meilleurs, c'est le label Excellence. Alors, comme j'ai gagné à Nantes, je me suis dit, je vais aller faire Angers, c'était un label Excellence, où là, il y a les meilleurs, c'est un tournoi international. Et donc, j'ai fini cinquième. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis tout ça. Hein. Et donc j'étais vexé et il y avait un gars qui était là, qui était champion d'Europe en titre. Et voilà, bon, il était très fort. Et j'ai vu que j'étais pas à la hauteur et je me suis dit, mais c'est pas grave, je vais me préparer, je vais m'entraîner. Et donc je suis parti, on est parti notamment au Costa Rica, je me suis entraîné 2 mois. Et je suis rentré et j'ai fait un tournoi à Bordeaux, un tournoi international. Et en demi-finale, je prends le champion d'Europe et je bats le champion d'Europe après un tournoi, un combat vraiment très 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 difficile. Et si vous voulez, à ce moment-là, je ne dis pas ça pour me glorifier, pas du tout, parce que c'est quelque chose dont j'ai honte, en fait. Mais à partir du moment là, en fait, j'ai commencé à, je sais pas, j'ai switché dans ma tête. Et je me suis dit, il faut que je continue. Il faut que je continue. Et j'ai gagné le tournoi. Et il faut que je me prépare et que je fasse les prochains championnats d'Europe. C'était en Grèce, c'était en 2020. J'ai commencé à m'entraîner. Et là, en fait, j'étais pasteur, je préparais mes messages le dimanche, études bibliques, etc. Mais en fait, petit à petit, en fait, je pensais judo, je rêvais judo, je mangeais judo parce que j'étais dans une catégorie de poids moins de 73 kilos, il fallait que je reste dans cette catégorie de poids, donc j'avais toujours 2-3 kilos à perdre. Et je mangeais judo, et j'ai préparé un tournoi en préparation en décembre 2019 pour préparer les championnats d'Europe. Et en fait, je perdais ma paix. Je pensais qu'à ça. Et ça devenait même très désagréable pour Johanna. Elle était témoin de ça. Et au bout d'un moment, parce que comme j'allais m'entraîner, et sur les tournois, je me blessais souvent. C'est très important ça, je me blessais souvent. Donc en fait, et j'arrivais à l'église et j'étais en train d'essayer de cacher mes blessures. J'avais un peu honte. Je me suis dit, qu'est-ce qu'ils vont dire de ce pasteur là, il revient. Alors des fois, j'avais des entorses là. Entorse sévère du ligament latéral interne, avec un cocard. Et donc je me blessais très souvent. Vous voyez, parce qu'on vieillit, quoi. Mais je voulais battre tout le monde, je voulais être le plus fort. Petit à petit, en fait, les grands dojos sont devenus pour moi des temples, les tournois, des cérémonies, où j'ai offert petit à petit tous les os de mon corps en sacrifice, parce qu'il ne faut pas oublier que les idoles demandent des sacrifices. Et ça c'est très subtil. Et un jour, dans mon église à La Rochelle, j'ai demandé à une sœur qui était très sportive aussi, je lui ai dit, écoute, est-ce que tu peux prier pour moi? Parce que je ne sais pas ce que j'ai un esprit de compétition. Maintenant, j'ai compris pourquoi j'ai ça. Ça, c'est un truc plutôt psychologique, mais voilà, je me soigne. Le Seigneur nous soigne, nous guérit. Je lui ai demandé, ma sœur, en fait, j'ai un esprit de compétition. Alors, si on était charismatique, on pourrait dire, ah, t'as un esprit de compétition, un démon de compétition. Mais je ne sais pas où est la... J'avais pas un démon de compétition, en tout cas, j'avais un esprit de compétition. Et je lui ai dit, s'il te plaît, est-ce que tu peux prier pour moi que Dieu me délivre? Parce que ça va plus, en fait. Que celui qui est debout prenne garde de tomber. Je vais faire le tournoi de préparation à Angers, tournoi international, et je fais tous mes premiers combats et je gagne. Très rapidement, bam, 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 bam. C'est le point que les gens ont commencé à regarder. Et là, j'étais dans les tribunes en train de manger mes barres de céréales, mes gels énergétiques, etc. Et là, je le sais maintenant, mon cœur a commencé à s'élever. J'ai commencé à m'élever. Et quand le cœur s'élève, ça précède la chute. Et en demi-finale de ce tournoi, je combats et je chute et en fait, je me casse l'épaule. Non, pas l'acromio. Fracture du trochiter. Je me casse l'épaule. Et j'étais par terre comme ça. Et à ce moment-là, j'ai compris que c'était la fin de la course et j'ai reconnu le doigt de Dieu ou un ange de Dieu. Mais j'ai reconnu que Dieu, à ce moment-là, il répondait à la prière de la sœur et qu'à ce moment-là, en fait, il me montrait que c'était la fin du délire. C'était la fin de... C'était la fin de la partie. Et en fait, on pourrait dire, ah ben le judo était devenu une idole. Mais en fait, l'idole, ce n'était pas le judo. Ce n'est pas le sport le problème. L'idole, c'était moi. Et je ne suis pas en train de faire un plaidoyer contre le sport. Il y a plein de gens parmi vous qui sont des sportifs, sans doute aguerris, etc. Je suis en train de faire un plaidoyer à partir du moment où on passe d'une activité saine à une activité qui devient plus à la gloire de Dieu et qui devient et qui on se glorifie des choses en fait qui font notre honte. Et plus Dieu, plus on avance et on grandit spirituellement dans la foi, et plus Dieu il va mettre l'accent sur des choses qui nous auraient pas reproché avant, mais quand on grandit spirituellement, il dit maintenant c'est ça qu'il faut que tu lâches. Alors peut-être vous dites oh, voyons la honte Stéphane, mais au travers de mon judo à moi, je vous pose la question, c'est quoi votre judo à vous? C'est quoi votre judo à vous? Est-ce que c'est votre prochaine transaction commerciale, votre prochain business? Qu'est-ce que c'est votre idole? Qu'est-ce qui prend la place de Dieu dans votre vie? Et si ça m'est arrivé à moi en tant que pasteur, est-ce que vous pensez que ça peut vous arriver à vous aussi? Et pour terminer sur cette histoire de judo, là comme on est en France, on n'est pas au Costa Rica, je me suis dit, bah, tiens, je vais refaire quelques tournois, mais en changeant la donne. J'ai viré mon compte Facebook, j'ai plus de compte Facebook. Parce que pour moi, en fait, Facebook, c'était lié quand même à l'orgueil. Je mettais toujours des trucs de moi, ça parle de moi, ça. Et alors, c'est peut-être pas le cas pour tout le monde, mais les réseaux sociaux, il y a une bonne part qui est liée à l'orgueil. Soyez vigilants par rapport à ça. Donc là, je me suis dit, je vais faire le judo différemment, sans que ce soit une idole. Voilà, je vais pas chercher ma gloire, etc. Et je suis retourné faire un tournoi là. Et au premier combat, je me suis quasiment amputé le gros orteil. Je me suis mis une fracture du gros orteil et après c'est ma peau qui a cédé et mon gros doigt de pied est tombé. Parce qu'en fait, Dieu m'avait dit stop. Et si je ne m'étais pas glorifié en amont, en faisant la promo sur les réseaux sociaux, etc., je me serais sans doute glorifié après. Et là, vraiment, Dieu, ça fait deux fois qu'il tape et ça me fait penser à l'apôtre Paul quand, à cause de l'excellence des révélations qu'il avait eues, Dieu lui dit, et là, c'était à la gloire de Paul, moi c'est à ma honte, lui c'était à sa gloire, à cause de l'excellence des révélations qu'il avait eues, il lui a été mis une écharde dans la chair afin qu'il ne soit pas enflé d'orgueil. Et trois fois j'ai demandé au Seigneur de l'enlever, dit Paul, et le Seigneur m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Moi, je ne vais pas demander la troisième tentative. Voilà. Alors voilà, ça peut vous paraître un peu dérisoire, ça peut vous paraître bizarre qu'un pasteur vous dise ça, mais c'est parce que je pense que personne n'est épargné. Absolument. Si vous n'étiez pas au clair sur l'abandon des idoles, pour conclure, abandonnez l'idolâtrie, franchement. si vous n'étiez pas au clair sur l'abandon d'Isdol, la reine du ciel, etc., ne provoquez pas la jalousie du Seigneur. Il dit au verset 22 du texte d'un Corinthiens 10, cherchez-vous à exciter la jalousie du Seigneur. Sommes-nous plus forts que lui ? Abandonnez les idoles. Et faites attention à l'orgueil. Je l'ai dit dimanche dernier, ou le 24, quand j'ai prêché, j'ai dit, l'orgueil, il est tapis dans tous les ports de notre corps. Quand je crois être délivré, il y en a encore. Et faites attention à l'orgueil, faites attention à la subtilité, parce que moi, ça a été ça, ma pierre d'achoppement, mais peut-être vous, c'est autre chose. Ça peut être même dans le ministère. Ça peut être, je veux être le meilleur prédicateur, je veux être le meilleur pasteur. Je veux être le plus écouté, vous voyez, ça peut être tellement subtil, tellement sournois. Donc méfions-nous. Et puis voilà, j'en ai terminé. J'ai passé de 8 minutes. Avant de conclure par la prière, peut-être vous vouliez ajouter quelque chose, partager, je ne sais pas.
Vous avez parlé des idoles, et moi aujourd'hui j'ai vu l'image, je ne sais pas si vous le savez, sur la Tour Eiffel. Ils ont fait une déco d'un serpent avec la couronne d'épices de Jésus et un oiseau. Vraiment une situation satanique, quoi. Vraiment, et que le monde, il ne voit pas ce qui se passe à ce moment-là. C'est pas la décoration qu'ils ont mis sur la Tour Eiffel. On peut voir. Moi, quand j'ai vu, j'ai pleuré. Et les scientifiques américains de tout le monde ont venu parler à la télé. Ils ont dit que la caractère de la côte atlantique pacifique, elle est en train en fait, c'est la camade de la Terre qui est en train d'expulser. Voilà, c'est en train d'ouvrir. Ils disent qu'à tout le moment, on peut avoir une très très grosse extinction d'humanité. À tout le moment, ils pleuraient, les scientifiques en direct à la télévision américaine. Et moi, je trouve un peu qu'on voit rien ici, dans les télés. Mais il faut prier.
De toute façon, c'est sûr qu'on arrive.
Oui, on est à fond de temps. Oui.
Soyons vigilants, prions.
Oui, il faut prier parce que là, c'est vraiment, ils disent, les scientifiques, ils vont deviner, disent qu'on a entre 5 à 7 ans de vie.
Il y a beaucoup de choses qui nous dépassent, comme l'expérience de ces voyants, là, il y a des choses qui nous dépassent, mais nous, on a la parole de Dieu comme
baromètre. Oui, c'est ça. Mais
est-ce que quelqu'un d'autre voudrait ajouter quelque chose, partager ou...
Non, mais c'est écrit, hein.
Ok, on va prier. Alors, je vais demander à une personne peut-être de conclure par la prière. Quelqu'un ou quelqu'une à haute et intelligible voix.
Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous sommes à l'écoute, Seigneur, de ce que tu nous dis encore ce soir. Et nous voulons partir non pas comme des auditeurs oublieux, mais nous voulons nous analyser, Seigneur, continuer